Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Tout d'abord, ce soir, je vais vous emmener en Israël et en Grèce. Mais auparavant, je voudrais vous dire que le centre Jean Bousquet et son temps, la maison des mémoires, la maison Jean Bousquet, 53 rue de Verdun à Carcassonne, continue donc ses activités poétiques et d'exposition, puisque il y aura vendredi 5 février à 18h une découverte de l'exposition en compagnie de Michel Butor. Il s'agit d'une exposition écriture et images. Alors, ce cheminement au sein de l'exposition de la rue de Verdun sera précédé d'une brève présentation de la table de littérature, c'est-à-dire les espaces du livre et de l'image, consacrés à une sélection d'ouvrages de Michel Butor aux éditions de La Différence, qui sont à Paris, aux éditions Notary, qui sont des éditions de Genève, aux éditions Art Go, qui sont à Saint-Étienne-les-Orgues, et aux éditions de Lamourier, qui sont chez notre ami Alain Fraîche à Coarraz. Alors, il y a une exposition, l'atelier Butor, où vous allez trouver des gravures, des photographies et des écritures. Cette exposition est en place du 18 décembre 2015 au 19 mars 2016. Donc, vous pouvez la voir du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. C'est une exposition qui est présentée toujours par le centre Jean Bousquet et son temps. C'est la conception et la coordination, c'est toujours René Pignès, cette fois-ci avec le concours de Mireille Caille-Gruber, d'Adèle Godefroy, de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et de l'association Archives Claude Simon et ses contemporains, et la collaboration du Musée Muséum des Hautes-Alpes. Donc vous voyez toujours des activités de haute volée dans ce centre Jean Bousquet de Carcassonne. J'avoue que vraiment, on les envie un petit peu. Voilà. Et puis le samedi, c'est-à-dire le lendemain, il y aura une rencontre et des entretiens avec Michel Butor, le samedi 6 février 2016, donc à 15h, toujours au centre Jean Bousquet et son temps. Donc là, il parlera de ses souvenirs photographiques, par exemple, avec sa femme, Marie-Jo Butor, qui prenait les photos, lui était l'œil un petit peu, où ils avaient un œil chacun. Voilà, ils parleront donc de ce travail qu'ils ont fait ensemble. Voilà, donc belle activité toujours de ce centre Jean Bousquet et son temps de Carcassonne. Bon, nous mettrons ceci bien sûr en exergue sur notre page d'accueil. Les-poète.fr. Alors, Georges Catalot, dont nous avions dit, je crois que c'était l'année dernière, qu'il avait publié trois livres là, d'affilée, fait paraître aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune un très joli petit livre avec une illustration de couverture qui est magnifique de Claudine Goux. On retrouve Claudine Goux souvent avec Georges Catalot, comme on la retrouve comment s'appelait-il, ce poète du Gers, enfin bon bref, avec des poètes dont de cette génération qui publiait dans les années 70-80, Claudine Goux, donc, qui illustre merveilleusement, comme toujours, mais vraiment la couverture est une couverture très réussie, dans un rouge et noir, où on voit une espèce de personnage un peu bariolé qui joue de la lyre, parce que Georges Catalot fait paraître les bestioleries poétiques. Alors, ces bestioleries poétiques, de quoi s'agit-il ? Eh bien, oui, parlons-en de la poésie et des poètes. Ce que Georges Catalot fait avec compétence, causticité et humour, à la manière des moralistes, entre guillemets, du XVIIe siècle, comme Pascal, La Bruyère, dont il renouvelle la langue, tout en reprenant à son compte les qualités d'exigence, de précision et de clarté. Ces bestioleries poétiques se lisent d'entrée, tout d'abord, et puis on revient sur tel ou tel aphorisme pour en apprécier davantage soit la flèche dans la cible, soit le tracé d'un caractère auquel il taille en costume sur mesure, soit encore la saveur de la formule pour le plaisir de la langue. Ceci est un extrait de la préface qui a été rédigée par Louis Dubost. Louis Dubost qui est lui-même poète et qui a été un éditeur très dynamique qui a publié énormément de poètes contemporains donc dans les 30 dernières années. Voilà, alors nous espérons avoir le plaisir d'avoir Georges qui viendra nous parler un petit peu de ces bestioleries poétiques. Alors c'est bien présenté par Louis Dubost, hein, avec cet humour qui les caractérise, à Georges Catalot et à lui-même, hein, où il dit par exemple « Georges Catalot aime la poésie, il en est grand lecteur, c'est pourquoi il en dénonce les falsifications, les dérives, les dogmatismes sectaires. Du même coup, il en rappelle les tenants et les aboutissants, la poésie ne vient jamais au rendez-vous qu'on lui a fixé, mais en revanche, on la rencontre exactement là où on l'attend le moins, le jour où justement, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle. » Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ces bestioleries poétiques. Alors, ce sont des aphorismes, hein. La poésie par exemple, est le plus long chemin d'un être à un autre. Bien. Plus loin, poète, 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 à dire et à chanter avec conviction. Notre époque n'aime pas la poésie et la poésie le lui rend bien. Combien de poètes survivraient si on débranchait les transfusions poétiques auxquelles ils sont reliés? Si seulement la poésie prenait racine, nous irions implanter un peu partout. Ah oui, alors parlons-en de la poésie. Poésie, 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 tu n'en as pas marre de ne lire que de la poésie. Tout de même, tu pourrais lire autre chose. D'accord, c'est entendu. Je lirai donc de la poésie. Voilà, donc vous avez compris quel était le ton de ces bestioleries poétiques, hein, ceci tout au long de ce livre. Est-ce qu'il travaille ses poèmes? Bien sûr, au moins 25 heures par jour. Les poètes ne savent pas lire, rire, dire. Veuillez rayer les mentions inutiles. Poésie facile, poésie fossile. Y a-t-il quelque part réellement un seul poète heureux? Voilà, bestiolerie poétique de Georges Catalot, qui a passé toute son enfance dans la campagne tarnaise avant de devenir instituteur et de vivre à Saint-Vincent, près de Villefranche-Lauragais, dont loin de chez nous, à Toulouse, et que nous aurons, j'espère, le plaisir de voir bientôt, en tout cas que nous saluons, avec ses bestioleries poétiques aux éditions Les Carnets du Dissert de Lune. Ça vous coûtera 12 €. C'est très bien présenté, c'est magnifiquement illustré donc par Claudine Goux. Claudine Goux qui était aussi l'illustratrice de Jacques Canu, le nom m'est revenu. Voilà. Alors, nous allons embarquer pour deux pays. Le premier, ça va être Israël. Alors Israël, avec une femme poète dont nous avons déjà parlé ici. Il s'agit de Agit Grossman. Alors Agit Grossman, on l'a vu en France, puisque elle est venue pour le festival de à Sète, festival de la Méditerranée, des poètes de la Méditerranée. Je crois que c'était en 2014. Hein. Oui, c'est le festival Voix Vive de la Méditerranée à Sète. C'est ça, elle est venue en 2014. Donc, elle était présente donc à ce festival à ce moment-là. Alors, elle illustre Agit Grossman, qui a un très beau visage, quand on, vous pouvez la voir d'ailleurs sur notre site les-poètes.fr. Pour l'émission que nous lui avions consacrée, je ne me souviens plus quand, il y a un an ou deux ans. Agnès Grossman, donc, elle est poète, elle est romancière, puisque elle a publié 4 livres de poésie, plus celui dont je vais vous parler tout à l'heure, et 2 romans. Et en cette année, elle va faire paraître un autre recueil de poésie qui s'appellera Le Livre du Corps. Elle est présente dans la vie littéraire israélienne et dans plusieurs festivals internationaux de poésie, puisque donc elle était en France en 2014. Alors, nous avions fait une émission pour des textes qui s'appelaient 9 poèmes pour Chamuel, qui ont été publiés en 2014 par Robert Lobé, donc l'édition de la Margeride, dans la traduction de Michel Écart Elial. Et c'est toujours Michel Écart Elial qui traduit ce recueil de Agit Grossman, qui s'appelle « Poème d'amour », aux éditions Le Vent, c'est-à-dire aux éditions que dirige par ailleurs Michel Écart Elial, dont je vous rappelle que dans cette bibliothèque des éditions Le Vent, puisqu'il y a une revue qui est l'espace méditerranéen, mais il y a également des recueils, et il y a 2 recueils absolument à connaître. C'est d'abord de Michel Écart Elial lui-même, Les exercices de lumière, pour lesquels nous avons ici à Radio Occitanie, en émission Les Poètes, consacré une émission. Vous pouvez d'ailleurs écouter les lectures de Exercices de lumière sur le site lespoètes.fr. Et également, il y a un livre de Mattia Écart, Lontani canti sacri di dove sono nato. Michel Écart Elial, donc, est poète. Il est traducteur de la littérature hébraïque. On lui doit les premières traductions de Yehuda Amichai, plus grand poète du XXe siècle d'Israël. On lui doit les traductions de David Vogel, de Roni Somek. Et il dirige cette revue Le Vent, L-E-V-A-N-T, Cahier de l'espace méditerranéen, dont la vocation est de promouvoir un dialogue pour la paix entre les 3 rives de la Méditerranée. Alors, je n'ai pas pu joindre Michel Écart Elial, mais j'espère le faire donc prochainement. Et aujourd'hui, je voudrais signaler donc cette très belle plaquette de Agit Grossman dans cette collection Le Vent, avec une couverture également magnifique. La couverture s'est imprimée à Nîmes. Il y a 100 exemplaires qui sont numérotés et signés par l'auteur. Voilà, je vais vous faire entendre donc ces textes de poèmes d'amour de Agit Grossman. Ibris. Tombé dans tes eaux sans savoir que ce sont tes eaux. Tombé. Avoir le mal de mer, infiniment. Tu es le monde bleu où je ne cesserai pas de nager, parce qu'il n'y a pas d'autre fin que nager en ces eaux. Je ne connais d'autre terre que ces eaux, dont je garde l'empreinte turquoise sur les bras, le Léviathan nageant dans ma chair. J'étais la chair de ta chair, et nous étions l'arbre portant le fruit sur les fleuves tumultueux de mon amour. La lumière du Shabbat est allumée et le feu brûle. Nous adorions le soleil de midi sur ta couche. J'étais submergé de soleil et tu m'as dit « Tu es submergé de soleil ». Puis je fus pleine de toi, je devins grande et lointaine, et le silence cessa, l'océan fut. La mère Jonathan. La marée a reflué de la chambre où tu dors dans le secret des eaux douces. Comme une bouée, ta tête entre mes mains quand ton corps déjà touche le fond. La brise se faufile entre nous. Mon regard sur ton visage est un filet d'eau qui monte et glisse de ton souffle. Les vagues de ton corps gisent et s'éveillent dans le mystère profond de l'eau et l'attraction de la lune. Le vent ouvre des brèches pour faire entrer la lumière du soleil. La lune danse dans la spirale de tes rêves jusqu'à ce qu'une grande crue inonde la pièce et disperse les nouvelles brisures dans le secret des eaux occultes. Tu grandis. Ta tête est posée sur la rive de mes mains. Je ne toucherai pas à ton corps endormi. Je lancerai de petits cailloux au secret de la mer pour que les vagues s'arrondissent et se répandent autour. Ce sont elles qui répondent à l'attente de ton corps pour se fondre dans l'écume et t'offrir la mer, Jonathan. Poésie. Tendre la main pour la paix, quand ma force est attirée par le feu. Secrètement, je persuaderai la lune de te donner la force du soleil. Si je tends la main vers la paix, je fais suivre le poème par un cerbère. Dans la vallée de l'abondance, le Kamsin arrache le venin du serpent. Il tranche sa queue et la vilaine morsure à coups de hache. Quand je tends la main pour la paix, la raison du poème est celle de la vie. Son territoire est infini, où la poésie surgit, le gardien de l'enfer s'endort. La rose de la chair. Quelle ombre claire, enfouie à la racine de ton amour. La rose de la chair chante les cantiques des douleurs. Trois fruits arrachés, leur ventre crie. Quelle ombre claire se cache dans ton amour. Au commencement, une prunelle obscure chante le mal. Au creux de mes nuits, le sang de tes veines bleues s'écoule et soupire dans le verre vide. Si je bois encore dans tes mains froides, il tombe des gouttes. Dans le verre, c'est l'obscurité. À l'extérieur, le vide. Son visage monte un autre palier. Et la poussière de la terre colle encore à tes fissures. Une odeur de vin coagulé et s'écoule entre tes dents comme un gouffre. Ton rire est attiré vers la lumière mauve, tiré contre la prunelle de l'obscurité, une lumière blanche et pure. 107 rue Nahalat Binyamin. Enroulés l'un sur l'autre, nous fermions la marche d'une guerre. Dans la rue étroite, il ne pleuvait plus, ni âme, ni chien qui vivent. En ces jours, nous ne cherchions pas la mort dans les journaux, mais dans la magie des films sur les artistes disparus. Nous vivions au-dessus du marché aux épices et des menuiseries, là où les affaires flambaient. On se tranchait la gorge pour une place de parking. Et à 6 heures du matin, quand le soleil froid perçait, nous nous retournions contre le mur pour faire l'amour avec tout le sérieux nécessaire des âmes qui ne se sont pas tues. Agit Grossman, poème d'amour. Nous aimions maltraiter notre amour, lui tourner le dos, pousser, balloter en tous sens, et le voir souffrir de notre indifférence jusqu'à étrangler son cœur. Nous aimions torturer notre amour, sentir ses limites à respirer encore sous l'eau, nos quatre mains autour de sa gorge, attendant qu'ils tous se reprennent, les yeux rouges de solitude, jusqu'à rire de sa rupture, pour être à nouveau ensemble. Nous ne voyons plus son sang couler sous le lit, ni tout ce qu'il voulait dire. Tremblement de ville. La ville intérieure tremblait. Fallait-il être vraiment désolé et demander pardon? Se dire que la ville ne serait plus jamais la même? Car la confiance et la paix dans son cœur obscur étaient atteintes. Au centre du salon, des observateurs étrangers sont entrés, assis sur le canapé rouge. Ils ont le regard réaliste de professeurs de mathématiques, le regard froid et de haut salaire. Tandis que nous sommes enfermés dans les livres de poésie, nous sommes une citadelle dont les murs sont tombés, parce que j'ai laissé la colère éclater et invectiver ce qui fut. Les observateurs au regard froid ont dit qu'ils venaient par amour et admis que nous leur avions confié un pouvoir capable de détruire des villes sacrées. Tu ne me regardais plus dans les yeux. Tu étais loin. Tu avais éteint la lumière et tu étais parti. Je suis resté près de toi dans le noir. J'ai murmuré ton nom. Tu n'as pas répondu. Je voulais m'excuser, demander pardon. J'ai touché ton corps chaud. Et toi, tu n'as rien fait. Aimé à ta façon, couronnant les mensonges de lumière. J'étais la méchante sœur, la marâtre, la fille rebelle. Je débouchais les bouteilles sans jamais les refermer. J'étais tout ce que tu détestais. Tu aimais mes cheveux, personne d'autre n'y toucherait. Tu m'as offert une étagère, je ne cherchais pas ton regard. Dehors, les chats miauler mon nom, enroulé sous les voitures. À l'aube triste, j'ai crié ton nom. Je t'ai supplié de ne pas partir. Tu ne l'as pas fait, mais tu as posé tes conditions. M'interdisant aux autres, je t'appartenais. Sur le livre, j'ai écrit ton nom et tu m'as donné une fille. À elle seule, j'appartenais. Mais je devais baisser le front, rester pudique. Je n'allumais plus les bougies du Shabbat. Pourtant, notre chambre était pleine de prières. Je fermais les yeux pour atterrir sur la terre tremblante. Je t'ai supplié de ne pas partir, puis de partir, mais tu n'es pas parti. Grossmann. Poème d'amour. Il venait faire l'amour. Il venait faire l'amour quand il n'avait personne d'autre. Elle habitait encore la maison de sa mère, une chambre au lit et aux rideaux rouges, et des pilules contre les angoisses. Nombre de fines passerelles, de cordes et d'échelles, par-dessus sa folie. Il venait lui faire l'amour, la faire rire et boire sa respiration. Il fumait avec elle, portait sa jupe, sans chemise, la barbe noire, l'arme balafrée, les cheveux attachés à un élastique. Ils achevaient les bouteilles de bière qu'il cachait dans la poubelle pour que sa mère ne sache pas qu'elle boit. C'était l'amour unique qu'elle possédait. Et ses yeux reconnaissaient les vers qu'elle écrivait. Sur son épaule droite, le tatouage d'une croix, il parle toujours dans un soupir. Il aime ses défauts, et la fracture est placée à l'endroit même de la balafre. Toi. Je me rappelle comment Jérusalem a fait pousser dans ma bouche des dents de louve. Je te guettais dans les rues. Si tu étais tombé sur moi, le froid autour de la prunelle, l'étrangeté, j'aurais planté mes crocs en toi, en hurlant vers Dieu, « Merci, merci. » Peut-être. Ne sauras-tu jamais à quel point tu étais pour moi la mort? Et plus je te choisissais, plus tu étais une fiction et le corps destiné à l'amour de ta chair. La chair poussée et de mon ventre jaillissait un amour pur. Je suis caché dans ma chambre. Et le sang qui faisait trembler les rêves, aujourd'hui se transforme en peur de perdre la substance de l'amour. Les ciseaux de la peur coupent la respiration, ils font de l'air en poussière aveuglante. Au cœur de la vie coule le fleuve de la beauté, il lave la peine sur sa pente, et chaque fois qu'on entend le chant des enfants, les blessures de ton souvenir sont oubliées, comme insensé, même si au cœur de la fiction coule le fleuve de la vie et le poème est leur point d'appui. Agit Grossmann, poème d'amour, distance. La distance entre nous était aussi concrète que le ver raclé sur la chair, si le sang gicle, tu seras le fou et tu m'amuseras. Tu ne me crains pas. Te quitter serait un précipice. L'obscurité de la ville murmure la distance de ton corps. Je suis nu face aux lettres, comme lorsque je pleurais couché sur le lit et que tu essuyais mon corps mouillé d'un linge humide. Je pensais mourir aussitôt si tu ne partais pas et ta voix était une corde autour de mon cou. Je suis allé prendre une douche. La corde tirée derrière moi, je voulais peindre le mur en jaune et tu m'attendais sur le lit. Je voulais que tu disparaisses, pouvoir être une autre. Et tu as peint les murs en violet, la chambre à coucher en bleu et la chambre de la petite en rose. Sur son mur, nous avons découvert le nom que tu lui as donné, gravé en lettres anciennes. Tu savais posséder des pouvoirs magiques, et moi aussi, je le savais. Ses yeux. Les yeux de Jonathan écoutent. Il s'évade sagement entre les rayons de son corps endormi. Éveillé, son corps attend de sortir au revers de forme mordorée, courir sur la rive des éclairs, l'éclat des rayons de son corps endormi fait plier sûrement les murs en de petites brèches de lumière. Ses yeux ouvrent des fenêtres sur la vision de Jonathan. Voir l'été s'apaiser et la pluie tomber comme de l'or pur. Agite Grossman, poème d'amour. Lieu. Je suis le lieu, de tous les lieux, où je n'existe pas. Une suite d'apparitions sur une scène de visage triste, je chante autrement. Je suis un lieu, une suite d'instants perdant la mémoire, je deviens autre. Quand j'entends ta voix surgir de tous les lieux où je n'existe pas, ta voix me parle dans la gorge. Je ne joue plus de rôle. Je n'ai plus de prise. C'est toi qui me prends. Source. Le monde est une source bleue. Au tréfonds de ses yeux, je plongerai, mais ne m'endormirai pas au noir de sa pupille. Dans les vaisseaux de son âme, dans l'absence de lumière, toute la nuit, la main de mon amant m'a tenu à son côté, hors de ce monde. Sa nudité bleue s'est apaisée dans mon corps, été sans couverture. Dans les vaisseaux de son âme, mon corps est happé par sa voix. Toute la nuit, mon amant, tu me manques, et ce manque est aussi nécessaire qu'effrayant. C'était Agite Grossman, poème d'amour dans la traduction de Michel Écart-Elial. Alors, Agite Grossman, vous pouvez retrouver également l'émission que nous l'avions consacrée en allant sur notre site les-poètes.fr et en allant aux émissions, donc la rubrique pour écouter les émissions. Vous allez aux années 2014 et c'est l'émission du 25/09/2014, 25 septembre 2014. Donc vous verrez là le portrait de Agite Grossman. Également, vous pouvez écouter les poèmes donc de cette poétesse israélienne. Alors, levons. donc publie ce magnifique recueil. Je vous invite, vous aurez toutes les coordonnées de ce recueil. Vous pouvez le commander, je pense, en écrivant à Levant Édition, alors L-E-V-A-N-T, et ensuite édition, enfin ça se tient, hein, Levant Édition, @gmail.com. Voilà. Alors par contre, je suis désolé, mais je crois que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 35 euros. Le prix n'est pas indiqué sur l'exemplaire. Voilà, je mettrai tout ceci évidemment à jour sur notre site les-poètes.fr. Et puis pour les gens qui habitent Montpellier, puisque maintenant donc grâce à Internet, ces émissions sont diffusées dans un peu partout. Donc le mardi 16 février 2016 à 19h à Montpellier, à la brasserie Le Dôme. Cette brasserie Le Dôme est 2 avenue Georges Clémenceau à Montpellier. À 19h, il y aura une lecture d'amour. C'est une soirée poétique avec Michel Écart-Elial. Donc, il lira ses lectures des poèmes d'amour de Agit Grossman que vous venez d'écouter et de quelques autres. Donc, la poésie pour rester humain et l'amour ouvert à l'autre. Tel est le titre de cette soirée. Et en exergue, il y a cette phrase de Mohamed El Mel Laoui. Merci pour ces beaux morceaux de la poésie de Haulieu, seul bouclier possible, en fin de compte, contre bombes et couteaux, un bouclier sous forme de caresse. Voilà, donc Montpellier, mardi 16 février à 19h, à la brasserie Le Dôme, des lectures de poèmes d'amour. Je crois qu'effectivement, on ne se trompe jamais en choisissant les poèmes d'amour. Voilà, c'était pour Israël. Ça a été peut-être un peu plus long que je n'avais compté. Et je voulais vous inviter maintenant en Grèce. Alors la Grèce, c'est un pays qui a beaucoup souffert, qui souffre encore. Et quand on regarde quand même l'histoire de la Grèce, depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale à maintenant, c'est quand même assez épouvantable. Alors il y a de très grands poètes grecs dont le renom n'est plus à faire, hein. Yanis Ritsos pour n'en citer qu'un, et un éditeur français, Le Temps des Cerises, qui édite de très beaux petits livres, une poésie qui fait un travail remarquable, vient de nous donner à lire Titos Patrikios. C'est une anthologie, en plus c'est en bilingue, donc ça peut intéresser nos amis grecs, puisqu'ils pourront le lire dans le texte, qui est intitulé « Sur la barricade du temps ». Alors, Titos Patrikios, c'est un des principaux poètes contemporains de la Grèce. Et dans cette anthologie, ce qu'il y a de vraiment de très intéressant, c'est que va résonner l'histoire de la Grèce, l'histoire du peuple grec. Et il faut dire que ce peuple grec a été peut-être le seul peuple qui était sous la domination nazie et qui s'y libérait tout seul, c'est pas ? On n'a pas été, nous, dans cette situation. Sans les Américains, eh bien, nous n'aurions pas été libérés. Les Grecs, eux, ils se sont libérés seuls. Et on peut même dire que la combativité grecque, qui est quand même exceptionnelle, a permis, dans un certain sens, de sauver la guerre. Je m'explique. Mussolini a eu l'idée, dans sa mégalomanie mortifère, de vouloir conquérir la Grèce. Et donc, il avait beaucoup plus de divisions, beaucoup plus de matériel que les Grecs, et donc il a engagé la guerre contre un pays dont il pensait que, comme il était numériquement beaucoup plus puissant et surtout beaucoup mieux armé, eh bien, il aurait une victoire très rapide. Eh bien, ce ne fut pas du tout le cas. L'armée grecque, qui était pourtant une armée mal commandée, mal équipée, était une armée avec des combattants hors pair. Et il s'est trouvé que, contrairement à ce qu'il croyait, Mussolini n'a pas pu envahir la Grèce aussi vite qu'il le croyait, et s'enferrant dans cette guerre qui n'en finissait pas, son allié a bien été obligé de venir à son secours. Et c'est ainsi que les divisions allemandes, en particulier plus de 300 appareils de la Luftwaffe et des bataillons allemands, sont venus à la rescousse de Mussolini pour lui permettre d'occuper la Grèce. Et ces bataillons ont été pris sur le front de l'Est, ce qui a retardé l'avancée des Allemands et qui donc sont arrivés à Moscou à l'hiver, et ce qui les a perdus. Voilà. Donc on peut dire que ce sont les Grecs qui, bien involontairement, ont un peu infléchi le cours de l'histoire. Mais ces pauvres Grecs donc ont eu une résistance extraordinaire, mais les Anglais n'ont pas véritablement joué le jeu, puisque plutôt que d'aider ensuite les parties qui avaient combattu contre les forces d'occupation, eh bien les Anglais d'abord ont laissé les Grecs eux-mêmes subir de terribles batailles pour se libérer. Ils ne sont intervenus véritablement qu'au dernier moment, et lorsque quasiment tout était fait, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le peuple grec de les acclamer et de les accueillir véritablement en libérateurs. Et les Anglais ensuite ont imposé le roi, et n'ont pas du tout éradiqué tous les collaborateurs et tous les ceux qui avaient, avec les nazis, persécuté les résistants, et au contraire, ceux-ci ont pris un petit peu le commandement de la Grèce, la libération, qui était quand même une époque assez extraordinaire. Et puis, ce sont des gouvernements très autoritaires, hein, la Grèce des colonels, ce qu'on appelait la Grèce des colonels, qui ont pris donc d'extrême droite, très forte, très virulente, très répressive, qui ont pris le destin de la Grèce pour son plus grand malheur, ceci jusqu'en 1974. Et ensuite, ce qui s'est passé, vous le connaissez, et vous connaissez la situation dangereuse dans laquelle est la Grèce. Alors lui, Titos Patrikios, il est très intéressant parce qu'il a vécu tout ça. À 14 ans, il s'est engagé dans la résistance en Grèce, à 14 ans. Et alors, des longues années de guerre civile et de régime autoritaire dont je parlais tout à l'heure, de ces persécutions et des exils, il va nourrir sa poésie. Et la transition démocratique, donc de 1974, va signer le retour à la vie normale, et pour lui, elle va être heureusement riche en aventures, en voyages et en rencontres. Donc on a la chance pour la première fois de pouvoir lire ces textes en français à partir d'une sélection dans l'œuvre complète de Titos Patrikios, une sélection qui s'étend des années 1940 à aujourd'hui et qui dessine en filigrane donc le demi-siècle qui vient de s'écouler et que j'ai résumé aussi vite que j'ai pu. Voilà. Alors, je pense que je vais essayer de vous lire en 10 minutes, certainement pas en entier peut-être, puisque je vais peut-être changer mon choix vu l'heure. Roses éternelles, la beauté des femmes qui ont changé notre vie plus profondément que sans révolution ne se perd pas. Elle ne s'éteint pas avec les années, même si les physionomies s'abîment, même si les corps se déforment. Elle reste dans les désirs qu'elles ont autrefois provoqué. Dans les mots qui sont arrivés même trop tard, dans l'exploration téméraire de la chair, dans les drames qui ne se sont pas déroulés en public, dans les reflets des séparations, dans les identifications totales. La beauté des femmes qui changent une vie demeure dans les poèmes qui ont été écrits pour elles, roses éternelles répandant leur propre parfum, roses éternelles, comme le disent les poètes depuis des siècles. Alors pour finir, je vais lire un extrait d'un long poème donc de Titos Patricios, La Maison. Alors là, c'est un peu son autobiographie qu'il a mis en poème. On va retrouver la résistance, enfin tout ce qu'il a tenu, connu. La maison. La maison où j'ai vraiment grandi était un appartement au dernier étage d'un immeuble pareil à un navire. En hauteur, il dépassait toutes les maisons voisines. De la terrasse, on surveillait Athènes, où on descendait à l'heure de l'alerte, dans l'abri souterrain. Moi, je leur échappais, je montais et descendais avec l'ascenseur, dont à l'époque ne disposait aucun de mes camarades. Quand j'en avais fini avec les devoirs, le grec ancien, les mathématiques, le français, l'anglais et même le piano, je prenais mon vélo. Je faisais des promenades à vaisseaux périlleux et autres acrobaties et je rêvais d'une moto bécane ou encore j'entendais de la musique sur des disques que je mettais sur un radiogrammophone RCA. L'appartement était grand, avec une salle à manger, un bureau pour mon père, pour moi, des chambres séparées pour chacun et même pour grand-mère et quelques oncles. Bien sûr, il n'était pas à nous. L'immeuble appartenait entièrement à un importateur de papier. Cependant, nous l'appelions chez nous, sans du tout nous en soucier. Pour tout dire, une maison, il faut en construire une plus grande encore, avec des mots, et les mots en grand nombre en poésie sont superflus, mais désormais, ça non plus ne me soucie plus. De l'un des balcons de notre maison, j'ai vu le Pirée se faire bombarder, le port qui brûlait, les stucas au-dessus de nous frombissaient comme des diables. De l'autre, glacés de peur et de haine, nous avons vu les colonnes mécanisées des Allemands entrer arrogantes dans Athènes. Ensuite, la ville s'est remplie de nos soldats, ils rentraient à pied du front, c'est comme ça qu'on disait, mais de front, il n'y en avait plus. Ils étaient en uniforme à moitié déchirés, les godillots éventrés. Les invalides avançaient avec des béquilles. D'autres avaient des pansements à la tête ou aux bras. Et vint cet hiver terrible, de la neige, de la famine, de la mort dans les rues. Chaque matin, pour pénétrer dans mon école, il fallait que j'enjambe deux ou trois morts. La nuit, ils se nichaient à la porte de la cour, où ils se raidissaient à cause du froid et de la faim. Quand les Allemands ont commencé l'extermination des Juifs, des gens ont caché notre propriétaire juif avec son frère et son père. Personne ne les a jamais trahis. Nous, comme les autres locataires des cinq étages, nous payons normalement le loyer tous les mois, réduit cependant pour cause de circulaire. Personne n'y a jamais manqué. Les maisons, si elles ne sont pas détruites par les bombardements, si elles ne brûlent pas, ne tombent pas à cause d'un séisme, durent davantage que les humains. Les humains, s'ils ne sont pas tués à la guerre, s'ils ne disparaissent pas prématurément à cause d'un accident ou d'une maladie, vivent davantage de vie que les maisons. Pourtant, les maisons, tout autant qu'elles durent, restent muettes s'il n'y a pas de survivants pour témoigner. Dans cette maison, j'ai connu la guerre, l'occupation, le rêve de la libération, le cauchemar de la guerre civile. C'est là que j'ai ressenti les premiers paroxysmes de l'amour, les modifications du corps, les passions de l'âme. Je me suis demandé si même l'âme existe, jusqu'à ce que je passe d'une foi assurée à une autre plus assurée encore. Là, le plaisir de la lecture est devenu angoisse de l'écriture, en même temps que l'ambition de voir un poème à moi publié dans une revue, même de jeune, jusqu'à ce que j'abandonne la poésie pour écrire avec les camarades que j'avais désormais acquis, des slogans sur les murs, en vert au début, ensuite à la peinture rouge, où la nouvelle vie commençait avec des annonces de mort, avec mort aux occupants, au fascisme, aux traîtres, mais où la veille vie que nous rejetions se poursuivait dans les parties où on dansait en serrant les jeunes filles ou dans quelques tournées dans les bordels avec un ami. Dans cette maison, derrière des dictionnaires, des romans, des anthologies, j'ai caché du matériel clandestin, parfois même des armes. L'un jour, je me suis fait engueuler par ma mère pour avoir été en retard au dîner sans qu'elle sache que je venais juste d'échapper à ma propre mort. De là, je suis parti pour les combats de décembre, où ont été tués tant de gens à mes côtés et autour de moi à nouveau, dans les quartiers autour de mon école. De là, quand ils nous ont pris Athènes, seulement pour un mois, comme nous chantions, nous sommes tous partis pour le maquis. Avec les événements qui changeaient radicalement, tout le monde changeait, quoique j'ai pensé souvent que j'étais le seul à changer. En même temps, changer les maisons, parfois davantage que les humains, mais habituellement sans prévenir. Quand nous sommes rentrés, nous avons retrouvé notre maison, pillée par des gens du voisinage. La moitié en avait été occupée par le propriétaire, l'autre moitié par un policier avec sa femme. Pourtant, nous avons réussi à la réintégrer avec notre grabuge. Nous avons compliqué la vie du propriétaire jusqu'à ce qu'il soit obligé de partir. Nous avons convaincu les autres de ne garder qu'une pièce, celle qu'ils voulaient, jusqu'à ce qu'ils se sentent appartenir à notre famille. Le policier ne nous a jamais dénoncés. La maison est redevenue la nôtre. Nous accueillons des amis, des parents. De là, l'oncle Yorgos est parti pour Chalkita. Il a été tué. C'est là. Ils ont amené mon père avec la tête ouverte quand il a été frappé au théâtre. C'est là qu'on a caché des gens recherchés, un clandestin qui, quand il a été pris, a tout dit à l'interrogatoire. C'est de là que je suis parti de nuit, sous bonne garde, à Makronissos. Ils m'ont mené à l'isolement, avec des gardes tout autour. C'est de là qu'ils m'ont envoyé, avec des menottes en déportation. C'est là que plus tard, j'ai veillé avec les mains pour les élections, avec l'espoir, toujours de bons résultats, ou d'autres fois, eux, jouer aux cartes jusqu'au matin. C'est là que j'ai projeté avec des amis des livres sérieux et des revues. J'ai fait des fêtes sérieuses, elles aussi. Je me battais pour le futur. Je me passionnais pour des amours qui se finiraient en conflit. J'étais redevenu, finalement, à la poésie. C'est là que j'ai écrit, sur la barricade de la Révolution. Personne ne m'a jamais nommé, ni ne peut me licencier. La Révolution, je ne l'ai pas abandonné. Du moins, c'est ce que je pensais. Même quand il n'y avait plus de barricades, même quand je défendais le droit de certains de ses adversaires ou mon propre droit devant elle, même quand m'ont jugé et m'ont condamné mes camarades d'alors. De toutes les choses que j'ai vécues là-bas, j'en nommais certaines, d'autres m'échappent. Ou bien, comme tous les écrivains, je les découvre au moment même où j'écris. Voilà, je m'arrêterai là. Donc, Titos Patrikios, je vous rappelle qu'il a 14 ans, il a rejoint donc les maquis grecs pour se battre contre l'occupant allemand, qu'il a ensuite été en exil, refusant les dictatures qui se sont succédées en Grèce, notamment en France. Titos Patricios sur la barricade du temps, c'est une anthologie bilingue, aux éditions Le Temps des Cerises, ça vous coûtera 17 €. Voilà, ainsi s'achèvent donc les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une bonne soirée. Soirée passée en compagnie de Racine in la Terre, donc qui va nous succéder et que je vous invite à écouter. À la semaine prochaine, Adicias.